Mars 2024.
Antoine Baduel reçoit...
Bon entendeur.
Chic, Sex and Son, comme toujours, Bon entendeur nous offre toujours ce qu'il y a de meilleur en cette période, à savoir une musique gorgée de soleil. Le duo qui nous avait régalé avec Méditerranée ou Disco en Égypte, eh bien, est de retour pour une autre destination, c'est Fio Maravilla. Douceur italienne, le duo a-t-il gonflé les voiles pour naviguer en Méditerranée? Eh ben, la réponse est tout de suite avec nos amis qui la connaissent, la Méditerranée. Exois d'origine, n'est-ce pas? Les bons entendeurs sont mes invités ce soir. Bonsoir les garçons, toujours un plaisir de vous accueillir chez vous, ici sur
FG. Plaisir partagé.
Ouais, on est toujours contents.
Je crois qu'on a été vraiment parmi les premières radios en plus à vous accueillir au tout début des mixtapes.
Ouais, ça fait longtemps qu'on vient ici.
Je crois que ça fait au moins 4-5 ans.
C'est ça.
Exactement. Et bientôt, plus le tchèche ni le
écharpe.
Le printemps arrive et grâce à vous avec Fio Maravilla, donc ce nouveau single avec la voix de Nicoletta. Vous venez de sortir une revisite bien sûr de ce titre qu'elle chantait au tout début des années 70 en hommage je crois à un footballeur brésilien. Peut-être une histoire d'amour qu'elle nous a cachée. Comment on tombe sur ce morceau? Qu'est-ce qui vous a vraiment séduit au point d'en inspirer votre prochain single?
En fait, ça faisait longtemps qu'on écoutait ce titre original sans vraiment l'imaginer sur... je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que pour le coup, c'est vachement notre énergie, je trouve. Ouais. En tout cas, ça colle bien. Et il a été ressorti par notre manager qui nous a dit « Les gars, ça vous dit pas d'essayer un truc là-dessus » Et ça paraissait du coup un peu comme une évidence. Donc bah, on y est allé, on a fait des tests et écoute, c'était assez concluant puisqu'il est sorti.
Et on a eu chaud parce qu'on s'est décidé à le remixer et à voir dans quelle mesure c'était jouable de le rajouter à l'album.
Ouais.
Peut-être un mois avant le rendu définitif. C'était vraiment la dernière petite fenêtre.
C'est ce qu'on appelle le heureux hasard de circonstance.
Hein,
c'est ça. Et, ouais. et alors, je le disais en ce moment, le son Bon entendeur, il nous fait penser à cette chanson pour l'Égypte, par exemple, avec Disco en Égypte. Comme si j'avais pris la mer, j'ai sorti la grand voile, j'ai glissé sous le vent parce que visiblement vous quittez les rives de la French Riviera pour l'Italie avec ce nouveau single, avec Rome aussi. Alors qu'est-ce qu'il y a de bon avec le son Bon entendeur? Est-ce que maintenant ça y est, on quitte finalement les images des finales françaises pour aller un petit peu plus prendre le large et aller au devant justement des villes méditerranéennes?
Oui et non. Disons qu'on s'éloigne peut-être un petit peu des deux premiers albums, des petites balades francophones. Mais on s'éloigne pas trop, on revient juste un peu à nos origines avec Arnaud. On vient d'Aix-en-Provence, du sud de la Méditerranée, et on voulait faire un troisième album qui nous rappelait un peu notre enfance finalement.
Alors, il y a une chose aussi qui est drôle, c'est que c'est le début peut-être d'une parenthèse, parce que vous l'avez certainement observé, la France de la nouvelle vague, celle des années 60-70, elle aimait quitter la France comme ça pour aller aussi découvrir les images d'Épinal, de Grèce, d'Égypte, d'Italie, avec des artistes qui la représentaient. Est-ce que c'est pas un peu votre manière aussi, vous, d'épouser, de créer un dialogue avec cette période que vous chérissez tant?
Écoute, je l'avais jamais vu comme ça, mais maintenant que tu parles d'images d'Épinal, c'est vrai qu'on s'y retrouve un petit peu finalement. C'est Nicoletta avec cette chanson, elle part au Brésil, elle nous amène au Brésil. Ouais. Et pourtant, ça reste très français. C'est une chanteuse francophone, française. Tu vois, des années 70. Donc on touche au patrimoine francophone et français, et en même temps, on fait voyager les gens qui nous suivent. Donc on est très content de ça.
Et c'est ça un peu votre génie, c'est-à-dire aussi de coller le sourire et le soleil à chaque fois, de créer ou de ressusciter. Alors c'est ces souvenirs qui sont peut-être un peu enfouis. Alors pas pour vous, c'est pas des souvenirs, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que vous captez peut-être ces photos d'albums de famille et d'en faire finalement des moments heureux entre amis au bord de la mer avec un narratif qu'on vous connaît bien maintenant et qui relève pour certains des souvenirs enfouis, pour d'autres du traumatisme. Oh mon Dieu, c'était mieux avant et ce beau temps passé, il est parti. Quelque part, vous êtes un peu des obsessionnels du bonheur simple et de l'amitié, quoi.
Alors, ça me va tout à fait, cette définition.
Tu en rosis de plaisir.
Non, mais c'est vrai qu'on profite de la vie, on réalise la chance qu'on a, on est heureux. Exactement, correspond bien, je trouve. Ouais.
Alors, on va parler du clip quand même de Fio Maravilla, parce qu'il met en scène une Audrey Fleurot en groom d'hôtel. Totalement déjanté. Alors pourquoi ce clip là pour le coup? Parce que là on est loin du footballeur brésilien.
C'est vrai. Mais en même temps, les paroles de Nicoletta ne parlent pas beaucoup de lui non plus. Hein. C'est l'histoire d'un jeune garçon.
Voilà. Là aussi.
Mais non, écoute, c'est un heureux concours de circonstances qui fait que on lui a écrit pour lui proposer de danser dessus.
Pourquoi elle d'ailleurs? Vous la connaissiez ou alors
c'est sorti de nulle part? Mais ce clip, en fait, ce clip, je sais pas comment ça s'est aligné les astres. Mais entre le son qui a été rajouté dans notre album 3 semaines avant de livrer l'album et le petit message à Audrey qui dit, bah les gars, je suis grave partante. Déjà, à quel moment elle est OK comme
incroyable.
Ça.
Incroyable.
Tout s'est aligné. Le lieu, c'est un hôtel à 3 pas d'ici, le Grand Mazarin, qui nous a dit, bah écoutez, c'est la première fois qu'on fait ça. On a ouvert il y a moins de 6 mois, mais on vous met à disposition l'hôtel si vous voulez tourner dedans. Alignement des astres, parfait. Il y a des jours comme
et
ça.
Et la groom déjantée, évidemment, dans la forêt. Alors, ça c'est incroyable. Ouais. Une comédienne géniale. Du coup, un clip qui l'est tout autant. Ben, moi, ce que je vous propose, c'est que la musique, c'est bien d'en parler, c'est mieux de l'écouter. Flo Maravilla, à tout de suite, on l'écoute. Les bons entendeurs qui nous font le plaisir d'être à nos côtés ce soir sur FG pour cette émission doublement spéciale, parce que tout à l'heure, on va en parler. Il y aura aussi le 4 avril, leur date à l'Olympia.
Yeah! Happy Hour FG. Avec Antoine Baduel. Star, Mix Live, cadeau. Ce soir, Antoine Baduel invite Bon Entendeur.
De retour avec les Bon Entendeurs, à l'occasion de la sortie de leur single Flo Maravilla, et qui s'apprête à prendre la mer, à la fois avec un nouvel album, Rivage, et surtout avec une date qui sera le coup d'envoi de la tournée d'été. Ça sera à l'Olympia. Alors, on en parlait à l'instant, les amis. Cela dit, il ne faudrait pas non plus que ça nous éloigne de l'essentiel. L'album qui s'annonce, tu en parlais à l'instant, Pierre, c'est Rivage. Un son qui se nourrirait d'autres soleils, d'autres étés, mais alors de quelle façon pour le coup?
Arnaud, il passe son tour là.
Je passe mon tour. Je sais si c'est ce qui nous a inspiré, c'est ça un petit peu la source d'inspiration,
ouais,
je sais pas, des plaisirs un peu enfouis. Tu disais tout à l'heure, quand on vous écoute, on a l'impression qu'on est sur les vacances, sur la route des vacances. On fait pas exprès. Je crois que c'est surtout les sonorités, les musiques qui nous émeut le plus. Et pourquoi Rivage? Pourquoi un tour de la Méditerranée? Parce que les chansons francophones, on avait fait le tour. Il y a tellement de choses, si tu connais nos mixtapes depuis quelques années.
Bien sûr.
Tu vois qu'on adore les sonorités grecques, même les percus africaines. Tout, en fait, tout nous intéresse. Alors, il fallait quand même cadrer pour cet album. On s'est dit, bon, on va s'arrêter quelque part. On va poser nos valises en Méditerranée sur un bateau et on va voguer au gré des inspirations.
Est-ce que, parfois, quand vous faites des dates aussi, c'est l'occasion pour vous de nourrir cette inspiration?
Je revois.
Le voyage, ouais. Écoute, on a eu la chance, l'immense chance d'aller en Polynésie. Et c'est des musiciens aussi, tu vois.
Ah,
il y a de super musiciens. Et moi, je regrettais de ne pas avoir mon petit micro, mon petit zoom pour enregistrer des mecs comme ça un peu à la volée, quoi. Et oui, effectivement, ça nous inspire beaucoup. Après, on est allé récemment au Liban, par exemple, et tu vois,
ville de musique aussi, Beyrouth.
Ouais, c'est incroyable cette ville.
Ça nous touche déjà humainement.
Ouais.
Et donc effectivement, après, dans la continuité, leur musique nous parle et on a envie de s'en inspirer.
Ah bah, bien sûr. À Barcelone, on s'était arrêté pour écouter un gars, on lui avait demandé sa carte. Bulgarie, pareil.
Ouais.
Et on a des coups de foudre, on reste là pendant une heure à les écouter, c'est incroyable.
Alors ce voyage, on est très très impatient évidemment de le vivre avec vous, de voir le projet Bon Entendeur nous permettre de nous évader davantage. Mais finalement, ça m'amène à vous poser une question. Comment êtes-vous parvenu à ce degré d'évasion dans le temps, dans l'espace aussi? Est-ce que vous qui avez un agenda de ministre, maintenant de plus en plus aussi de dates à faire, vous êtes obligé quand même par moment de prendre le temps de vous poser, de vous dire quelle époque, quelle voie, parce que finalement il y a quand même un travail de sourcing qui est très 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 important et qui est déterminant pour votre travail. Vous arrivez
parce en fait, je pense que la clé c'est déjà on n'a pas l'impression de travailler, tu vois, c'est quelque chose qu'on fait par passion et du coup écouter de la musique c'est un peu ce qu'on fait naturellement toute la journée et puis
mais on quitte le temps présent, Arnaud, quand même, tu vois ce que je veux dire? C'est l'impression que ça me donne concernant votre travail.
Oui, c'est vrai, mais puis tu sais, sur ces temporalités là nous on se pose pas tellement, j'ai l'impression. Le cadre se pose peut-être à la fin, tu vois, quand on a des morceaux qu'on aime, on va essayer de trouver une manière de les faire vivre ensemble. Mais tu verras, enfin j'imagine, je sais pas si tu as écouté l'album ou pas, j'imagine que oui. C'est quand même très hétérogène malgré tout.
Et justement, c'est ce que j'allais vous dire, c'est un album aussi qui aussi entre revisite de grands classiques mais aussi de morceaux plus inédits et ça sera ça évidemment.
Oui, complètement.
Mais toujours avec une patte. On en discutait avec je sais plus avec qui il y a quelques jours en disant mais Rome c'est une production originale, je pensais que c'était un remix. Et je crois que ça m'a fait plaisir de me dire que nos productions originales ressemblent, ont la même patte un peu. C'est un son qui est du coup un peu intemporel. Bon, on verra, on en parle dans 10 ans. Mais en tout cas, qui sonne comme un son qu'on aurait pu remixer des années 70-80.
Ouais.
Pas du tout.
Ça, c'est vraiment pour le coup un objectif qu'on a, essayer de noyer le poisson, tu vois.
Ouais, c'est ça. Mais comme vous le faisiez déjà à l'époque des mixtapes,
ouais,
entre parenthèses. Alors ce nouvel album, il ne va pas arranger vos affaires parce que vous avez déjà réservé 2 Olympia, les 4 et 5 avril prochains. Les 2 sont sold out. Comment on va-t-on partager cet album avec vous du coup? Il y a une tournée qui se prépare notamment dans les festivals. Ça va se passer comment? C'est-à-dire l'album n'est pas lancé que déjà vous êtes en promo quoi.
Non, ouais, mais
tournée,
écoute, pour la première fois, et il nous aura fallu 3 albums, hein, pour la première fois à l'Olympia, on va jouer 100% de titres à nous. Sur un concert DJ,
vous avez le répertoire.
Ouais, voilà. Et enfin. Et donc bon, par contre, on a pris le temps cette fois-ci. Ça fait plus d'un an et demi qu'on est en pause en France et qu'on n'a pas joué. Du coup, on a utilisé ce temps pour s'enfermer en résidence à côté de Vichy et donc évidemment construire cet album, mais aussi bosser sur le show et le spectacle qu'on va présenter à l'Olympia pour la première fois. On a fait des nouvelles versions de tous nos titres. Spécifiquement pour la tournée, donc une nouvelle version du Temps est bon et de tous nos classiques, si je peux dire, plus évidemment des versions live de tous les titres du prochain album. Donc ça a été un boulot énorme et on a vraiment hâte d'être le 4 avril prochain.
Bah croyez-le bien, nous aussi, pour venir vous voir. Le 4 avril prochain, ça sera à l'Olympia. Alors bah, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est sold out, mais il y a, j'imagine, certaines dates de rattrapage pendant les festivals, bien sûr.
Oui, hein? Dans toute la France, oui, et à Paris aussi. Ça y est, on a annoncé la troisième date qui était tenue secrète. Mais à Versailles également.
Quel chic.
Oh là là.
Oh là là.
Au château de Versailles.
Exactement. C'est Versailles Electro.
Tout à fait.
Exact. Avec Radio FG.
Avec Radio FG. On n'est jamais loin.
Et l'équipe de l'agence. on est toutes contentes, bien sûr, parce qu'on en est très fiers, évidemment, de ce Versailles Electro qu'on fait à vos côtés. Bon entendeur, toujours présent quand il s'agit de bercer nos oreilles de leurs morceaux délicats, chics et pleins de nostalgie heureuse qui a fait leur identité, leur signature et leur esthétique. Fio Maravilla, c'est le nouveau single, extrait de l'album à venir, Rivage. D'ailleurs, je ne vous ai pas demandé la date exacte de la sortie.
Le 29 mars.
Le 29 mars. Donc ça sera J-7.
Ouais, c'est ça, c'est juste avant l'Olympia.
Hein. Exactement. Voilà, en revanche, la nouvelle, c'est que nos amis vont avoir plein de miles. Ils quittent la French Riviera pour faire le pourtour méditerranéen cette fois. Soleil et Farniente, donc toujours au programme. Sortie prévue le 29 mars prochain. Merci à tous les deux.
Merci,
c'est toujours
un plaisir
de nous accueillir.
Janvier 2018, Antoine Baduel reçoit Pete Tong.
Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir le DJ britannique Pete Tong, véritable légende des musiques électro. Le britannique Pete Tong est derrière la carrière des plus grands artistes qu'il aura propulsé, notamment avec ses émissions sur la radio britannique BBC Radio 1. Il est animateur, DJ, producteur. Pete Tong, c'est un artiste pionnier, respecté. Il vient de signer son album Ibiza Classics, une série de reprises d'énormes tubes dance électro, revisitées, s'il vous plaît, par The Heritage Orchestra. Pete Tong, c'est mon invité ce soir sur Radio FG. Pete Tong, bonsoir. Good evening, my friend. How you doing?
Yeah, very good. Very good. Happy to be here.
Alors, c'est évidemment un plaisir de t'avoir avec nous, Pete, d'autant plus que tu sors cet album et son cortège de très bons souvenirs qu'il suscite. D'ailleurs, cet album, tu l'as conçu pour les Quadras qui ont dansé sur les originaux, ou plutôt pour faire découvrir aux plus jeunes les gros hits qui ont marqué ces dernières années. Finalement, à qui tu t'adressais?
It wasn't really either of those things initially. It was the fact that I was invited.
Ah, tu sais, à la base, c'était ni l'un ni l'autre. En fait, on m'avait demandé il y a quelques années de superviser tout un show avec l'Héritage Orchestra. C'était au Royal Albert Londres en 2015, il y a 3 ans. Et c'était pour deux proms, une série de concerts que donne la BBC chaque été. Et la réaction du public à l'époque a été tellement incroyable que ça a créé une demande, une envie d'en voir plus. Et c'est là qu'a germé l'idée de faire un album. C'est le début du projet.
Initially, yes, it's obviously appealed to people that used to go clubbing in the late 80s and through the 90s.
Après, oui, ça s'adresse surtout à celles et à ceux qui sortaient en club fin des années 90, début des années 2000. Mais ce qu'on a observé ces deux dernières années, t'as raison, c'est que ces musiques plaisent aussi à un public bien plus jeune.
Alors, de One à Grey, en passant par Sing It Back, ton album couvre un champ électro très large, très varié. Comment s'est fait le choix des titres à revisiter? J'imagine que c'est pas uniquement ton panthéon musical personnel.
No, it was about finding on the first album it was very much finding tracks.
Non, sur le premier album, l'idée était avant tout de sélectionner des morceaux qui se prêtent le mieux à une revisite par un grand orchestre. Et l'Héritage Orchestra, c'est quand même un ensemble de 65 musiciens. En revanche, pour le deuxième album, celui qui vient de sortir, la démarche était vraiment différente. Elle dépassait le cadre d'un orchestre. L'idée, si tu veux, c'était d'avoir en tête les voix, les featuring, les artistes avec qui on voulait travailler. Et pour un titre comme Unfinished Sympathy, par exemple, on voulait un chanteur qui puisse rendre hommage à l'original, et c'est fait en la personne de Sam Henshaw.
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que cet album a été produit avec The Heritage Orchestra, qui est le célèbre orchestre britannique dirigé par Jules Buckley.
Qu'est-ce que tu peux nous expliquer sur ce choix, cette envie de revisiter les artistes par le biais des instruments classiques et par cet illustre orchestre ?
It was an invitation originally to perform a concert at the Royal Albert Hall in London.
Comme je te le disais, à la base, c'était avant tout une invitation à créer un concert au Royal Albert Hall, c'est à Londres. On m'a présenté Jules Buckley, qui dirige l'orchestre, et puis ses musiciens. Et c'est moi qui ai monté tout le projet, choisi les titres pour l'orchestre, bossé sur les arrangements, les adaptations, bref, surtout avec Jules, bien sûr. Donc on s'est rencontrés comme ça, par la force des choses, pour bosser ensemble sur ce projet.
Alors Pete, on a évoqué l'orchestre qui t'a accompagné sur cet album, mais il ne faut pas non plus oublier les featurings, les artistes qui ont parfois réenregistré les paroles. Je pense à Craig David sur Armand Van Elden, You Don't Know Me. Je pense à Disciples également. Qu'est-ce qui t'intéressait dans cet apport d'artistes aujourd'hui sur ces titres d'hier ?
Well, it was about, you know, I have the most respect for the originals. The originals are the originals. You know, you'll never really make a version better than the original.
Bah, tu sais, d'abord, j'ai le plus grand respect pour les morceaux originaux. Tu ne pourras jamais d'ailleurs créer un titre meilleur que l'original, en quelque sorte. Mais c'est vrai qu'on voulait créer de nouveaux arrangements, de nouvelles versions, tout en créant d'ailleurs un album à part entière qui vient compléter ces originaux. Alors oui, bien sûr, j'ai dans une certaine mesure amené ces titres vers un nouveau public grâce au featuring. Parfois, on a pris une chanson chantée par une femme et on a fait appel à un chanteur. Dans d'autres cas, comme avec Disciples par exemple, l'idée c'était de trouver quelqu'un qui colle à la vibe de Promised Land de Joey Smooth et en même temps de le présenter à un public plus jeune. C'était un peu la difficulté parce que Disciples n'est connu que depuis quelques temps.
Alors Pete, je le disais aux auditeurs de Radio FG, ta carrière c'est aussi des émissions de radio, ta faculté à avoir découvert, lancé, aidé, soutenu de très nombreux DJ qui te doivent beaucoup. Est-ce qu'il y a dans Ibiza Classics des titres qui te rappellent ça, c'est-à-dire un clin d'œil au soutien que tu as pu apporter à ces artistes ?
Yeah, I mean that's the theme of the album. It's very much celebrating. I mean, I've always believed that Ibiza has provided such an amazing.
Oui, bien sûr, c'est le thème de cet album, d'être dans la célébration. Je veux dire, j'ai toujours considéré qu'Ibiza, c'était la meilleure plateforme pour le reste du monde. Il y a des idées nouvelles, de nouveaux concepts, de nombreux artistes vont finalement à Ibiza pour inspirer leur musique. Et des titres comme Promised Land ont été joués d'abord en premier à Ibiza dans les années 90. Donc ouais, cet album, c'est pour célébrer tout cet héritage qu'on doit à Ibiza.
Alors, il y a une chose intéressante dans ton album, c'est que quand on observe la musique aujourd'hui, on se dit que tout va très vite. Un titre chasse l'autre et donc s'en définit des anthèmes, des tubes qui vivent éternellement. Est-ce que cet album, c'est aussi une manière de conjurer le sort, c'est-à-dire rendre ces tubes vraiment éternels ?
Oui, bien sûr, il y a cette motivation. En anglais, on dit rajouter du gravitas, c'est-à-dire du sérieux, du poids, de l'importance dans ces chansons. Et c'est vrai que pour toute une génération, ces titres représentent une période significative de leur vie. Et moi, je voulais vraiment honorer tout cela, honorer les artistes, les auteurs, les producteurs qui ont créé ces sons sortis il y a quelques années maintenant.
Alors, ces musiques électroniques ont été, tu le sais, souvent moquées, décriées, surtout en France au début. Est-ce que faire appel à un orchestre symphonique, pour toi, c'est une façon d'institutionnaliser l'électro et de lui donner encore plus de lettres de noblesse, une noblesse anglaise, qui plus est?
Yeah, that's kind of what I said in the earlier answer.
Ouais, c'est exactement ça. Je crois d'ailleurs que la dance music n'est toujours pas prise au sérieux aujourd'hui. Je veux dire, pas autant que le rock, le punk ou le hip-hop. Et c'est vrai que j'ai cette envie de changer finalement la perception que peuvent avoir les gens de cette musique, de souligner par exemple la qualité des productions. Oui, t'as raison, c'est vraiment une très grande motivation chez moi.
Octobre 2023. Antoine Baduel reçoit Waracles
de Michael Canitro et son show monumental au Waracles Orchestra, en passant par Céron qui va se produire avec tout un orchestre symphonique. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'une partie de la scène électronique bouscule, casse les codes pour raconter de nouvelles histoires musicales. Pour Waracles d'ailleurs, ça fait longtemps déjà qu'il s'éclate sur cette musique de fusion. On se souvient tous du très bon Porto. Qui est mon invité ce soir de la Happy Hour FG. Kevin, bonsoir. Bienvenue sur FG. Toujours un plaisir de t'accueillir. Comment tu vas ?
Pareil pour moi. Toujours un plaisir d'être ici, d'être avec vous. Ça va super. Je suis un petit peu fatigué. On sort d'une très grosse tournée, mais ça va. Je suis content.
Et petite parenthèse à Madame Loyal à Bordeaux le week-end dernier.
Tout à fait. Mais bon, on sort aussi d'une tournée de 17 Zénith dans toute l'Europe. Et là, on vient de faire tout, enfin, beaucoup de festivals, je sais pas, 20 ou 30 festivals cet été, je sais même plus. Je sais ni combien on en a fait et je sais même plus compter. C'est pour te dire à quel point je suis fatigué.
Alors, on s'intéresse en ce moment aux artistes électro qui flirtent, toi, qui marient les scènes de musique électronique et classique. Hier, tu faisais partie des pionniers. Désormais, c'est quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire, plus répandu. D'autres tentent leur chance. Comment toi es-tu venu à cet équilibre au départ étrange et aujourd'hui tellement logique entre musique classique et électronique?
Alors en fait, il y a quand même pas mal de variantes dans cet accord entre musique, enfin entre orchestre et musique électronique. Il y a beaucoup d'approches. Je pense par exemple à Python qui lui a fait ça en reprenant des classiques d'Ibiza. Donc là, on reste dans une musique qui est mine de rien très électronique et qui est réinventée, qui est
revisitée en fait, un peu comme un remix.
Voilà, exactement. T'as des tas d'artistes, je pense par exemple à Tilacine, qui eux s'éclatent en revisitant des morceaux de musique classique, des pièces de musique classique existantes, des Vivaldi, des Mozart, etc. Moi, mon approche, elle est dans une approche plutôt de composition originale, c'est-à-dire que j'ai des influences classiques, effectivement, parce que je suis avant tout musicien classique de formation, mais aussi de musique de film, etc. Et en fait, j'essaie d'apporter aussi un renouveau à l'écriture même et à l'approche de la musique orchestrale, en fait. Donc c'est plus, enfin, pour moi, je pense même plus à un mariage, en fait, quand je pense à ma musique, je pense même plus à un mariage entre la musique électronique et la musique orchestrale. Pour moi,
c'est une fusion
de la musique.
Ouais, c'est de la musique.
Et je me sers d'orchestre comme je pourrais me servir d'un synthé, en fait.
Warwick's Orchestra, c'est donc un projet hybride. C'est pas la promesse la plus simple, la plus évidente, et pourtant chacun de tes lives fait sensation. Moi, je me souviens toujours, à chaque fois que je te vois en live, c'est vraiment une prestation extrêmement impressionnante, à la fois pour l'interaction que tu as avec tes musiciens, mais celle aussi que tu as avec le public. J'imagine que ça doit être une sacrée fierté pour toi d'avoir amené un public parfois jeune à kiffer l'électro, même si elle contient du violoncelle ou de la clarinette.
Ouais, tout à fait, mais honnêtement, bon, moi je suis pas trop du genre à me reposer sur mes acquis, à me contenter, à me congratuler. Je suis content d'en être arrivé là, mais là j'ai vraiment envie de mettre la seconde. Et je sais pas si tu as vu, j'ai signé mon nouvel album chez Universal qui paraîtra dans quelques mois. Je suis très content de l'avoir fait. Et en fait, si tu veux, jusqu'à présent, je réalise en auto-analysant un peu ma carrière et mon approche de tout ça, que je me suis beaucoup concentré sur le fait de réussir à marier ces deux éléments qui sont la musique électronique, les machines et les instruments dits classiques. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de réellement apporter quelque chose. C'est plus juste une association de deux choses. J'ai envie de créer carrément un courant et quelque chose de très original.
Kevin, un courant qui passe autant par le live que par la production, parce que bosser sur tes shows justement électro-classiques, est-ce que ça a changé ton rapport à la fois à la production et au live? Parce que pour le coup, le classique, tout est écrit, chaque note, chaque temps. Est-ce que ça t'a rendu très bon en production de titres? Est-ce que ça a changé ta manière d'approcher la création électro?
Oui, dans le sens où je l'écris de façon beaucoup plus classique maintenant. C'est-à-dire que j'ai dû aussi écrire pour orchestre, ça se fait pas comme ça. Je connais pas les secrets de chaque producteur, mais moi j'écris tout. Chaque instrument, c'est moi qui écris toutes les lignes. Mais je crois que c'est assez rare. Ça se fait pas du jour au lendemain. Moi, ça fait 10 ans, plus de 10 ans que je travaille sur ça, et j'apprends à chaque fois de mes musiciens qui me corrigent, qui me conseillent, qui me dirigent, etc., vers des écritures qui sont plus appropriées à chaque instrument. Tu écris pas pour une clarinette comme tu écris pour un violon, etc. C'est pas la même chose.
Et alors justement, pour une musique, mais aussi des acteurs, des musiciens qui ont la réputation d'être élitistes et durs, est-ce que toi, au fil des années, des projets, t'as réussi à te faire respecter, à avoir ta place justement au sein des musiques classiques, ou alors t'apparais toujours comme un ovni?
Il y a un peu des deux. Je pense qu'il y a une bonne partie des musiciens classiques qui seront toujours des conservateurs, et je pense qu'il faut qu'ils le soient, et on a besoin d'eux, parce que la musique classique, c'était un héritage culturel monumental qu'il faut surtout pas perdre, et ça, c'est très important qu'il y ait des gens qui soient très conservateurs. Il y a aussi une bonne partie des musiciens qui ont besoin de renouveau, qui ont envie de renouveau, parce que la musique classique, comme son nom l'indique, c'est une musique qui a été écrite il y a des centaines d'années, et non seulement elle correspond plus au code forcément d'aujourd'hui, mais en plus de ça, c'est bon, on l'a entendu, je veux dire, quand t'es dans la musique classique, moi je suis un amoureux de la musique classique, mais c'est vrai que moi aussi j'ai envie de renouveau dans ce style-là. Et je pense qu'on peut reprendre ce style et aller un peu plus loin.
Warakles, mon invité ce soir sur FG, Kevin, je te propose qu'on fasse une petite pause et on s'écoute un des morceaux iconiques justement de cette rencontre entre les musiques classiques et électroniques avec Iba, produit avec la soliste Sophie Pangiklis. Iba, très très beau morceau signé Warakles, qui est mon invité ce soir sur FG.
17h-20h, Happy Hour FG. Ce soir, Antoine Baduel invite Warakles.
De retour avec le DJ producteur français Warakles depuis son home studio à Aix-en-Provence. Alors, on parle avec toi de cette fusion électronique, symphonique ou du moins classique, et parfois, on peut s'y perdre un petit peu parce que d'un côté, tu joues avec des musiciens, on te voit aussi dans des clubs genre le T7 plus que dans des opéras. Est-ce qu'il t'arrive malgré tout de faire des DJ sets bien classiques et est-ce que tu arrives à garder un lien justement avec les clubs ou alors est-ce que tous ces projets-là, ça t'en a détaché?
Alors, ça tend quand même à s'en détacher, malheureusement, j'ai envie de dire, mais d'un côté, heureusement aussi, parce que je me fais un peu vieux, j'ai 35 ans.
Enfin, un peu,
j'ai plus 20 ans en tout cas, et c'est vrai que je tends à aller vers le concert, de jouer un petit peu plus tôt, etc. Et donc, en fait, ce que j'essaye de faire quand je suis en club, c'est d'amener aussi parfois des musiciens, parce que je pense que je vois qu'aussi aller dans un concert c'est une chose, mais il y a aussi plein de gens qui vont dans un club pour aller dans un club parce qu'ils savent même pas forcément que c'est Warakles ou je sais pas qui joue ce soir là. Non, ils vont dans un club parce qu'ils ont l'habitude d'aller là ce soir là et en fait moi j'ai envie de rendre tout ça accessible à ces gens, si tu veux, de dire voilà, regarde, tu peux kiffer du violon ou du violoncelle, et là moi je t'amène une violoniste, souvent je joue donc avec Esther Abarbi, ma compagne, qui est violoniste classique, ou avec Antonin Winter, mon violoncelliste, et regarde, ça tue. C'est de la musique d'aujourd'hui, c'est pas un truc comme ce que les gens peuvent croire, chiant, lent, doux, trop calme, etc. Non, pas du tout, c'est de la musique d'aujourd'hui, et en fait, je crois que d'aller dans les clubs faire ça, c'est un petit peu comme aller sur le terrain, c'est vraiment aller dans le dur et aller chercher des fans et leur montrer, regardez les gars, même dans la sueur, même dans le noir, même dans les lasers, on peut faire des grandes choses avec un violon.
Et alors, tu sais que la semaine prochaine, c'est Marc Serron qui sera à ta place pour nous parler de son concert électro-symphonique avec l'Orchestre National de Cannes. Il nous disait sa joie justement de faire ça, les difficultés des répétitions aussi, parce que c'est un sacré challenge, on change complètement d'échelle dès lors qu'on bosse avec des musiciens classiques et des orchestres, j'imagine. Je veux dire, tout ça, ça complique forcément tout ce qui est répétition, filage, tout ça doit être extrêmement complexe, non?
Oui et non. C'est-à-dire qu'il faut les codes, il faut savoir, je ne sais pas du tout à quel point Serron s'est travaillé avec des orchestres et quelle expérience il a, donc je ne me permettrai pas de... Voilà, mais je sais en tout cas que en 2019, lors de ma première tournée avec orchestre, ça m'avait pris une bonne semaine de préparer mon orchestre. Aujourd'hui, je suis capable de préparer un orchestre en un jour et demi sur mon show.
Ouais.
Ça dépend de ton écriture, à quel point c'est prévu pour orchestre ou pas, et ça dépend de ton anticipation de leurs problèmes. En fait, il faut savoir comment eux ont l'habitude de travailler et leur proposer une façon de travailler qui va être facile pour eux, pour que tout soit fluide. Il faut juste savoir parler leur langue et connaître leur code, parce que c'est un monde qui est complètement différent de celui de la musique électronique.
Et alors, c'est quoi la suite des projets Warakles là pour cette fin d'année 2023? Tu bosses sur quoi? Un nouveau show ou alors plutôt de la prod?
Eh ben, un nouvel album. Et avec pas mal de feats intéressants, et puis ensuite on va repartir à partir de fin janvier, et notamment à Paris. Bon, on l'a pas encore annoncé, mais je peux le dire là sur FG, à Paris notamment, on fera la salle Playel.
Ah, très bien, très belle salle, très belle salle Art Déco en plus, il faut le dire.
Ouais, ça va être super. Donc voilà, on repart sur un format un peu plus petit, quitte à doubler, tripler les dates. Donc ça va être génial, j'ai vraiment trop hâte. Parce que là, ça va être vraiment nouvel album. Le dernier album date d'il y a de 2019 quand même, donc ça commence à faire un moment. Et là, j'ai vraiment beaucoup de nouvelles choses à dire, donc j'ai hâte de présenter tout ça.
Et ben, ça sera avec un immense plaisir qu'on t'accueillera de nouveau Warakles, un de ces artistes électro qu'il faut aller voir sur scène, équilibriste entre les musiques électroniques et la musique classique, un peu comme Serron qui prendra la semaine prochaine le chemin du Nikaya à Nice pour se produire avec l'Orchestre National de Cannes. Il viendra d'ailleurs nous en parler dans l'Happy Hour FG. Merci beaucoup Kevin, Warakles qui était mon invité ce soir sur FG.
Merci, à très bientôt, merci beaucoup pour l'invitation.
Merci à toi.
Janvier 2024.
Antoine Baduel reçoit
Lost Frequencies.
11 titres, beaucoup d'efficacité et d'émotion, une pléiade de collaboration. Voilà ce qu'on peut dire déjà de l'album All Stand Together que vient de sortir le Belge Lost Frequencies, le célèbre DJ bruxellois qui FG suit et soutient depuis le début de sa carrière, notamment depuis 2014 avec ce morceau Are You With Me, révélé par Aki Makli dans son Starter FG. C'est peu dire que ce nouvel album All Stand Together te ressemble parfaitement, que ce soit musicalement ou que ce soit dans son message et son humanité. Est-ce que tu en es fier? Est-ce que tu as le sentiment d'avoir trouvé le bon équilibre avec cet album?
Je sais pas si j'ai trouvé le bon équilibre, mais en tout cas je pense que c'est comme tu dis, ça représente bien ce que je fais en ce moment, qui je suis, et musicalement ce que j'aime produire et ce que j'aime sortir pour Lost Frequencies. Je pense que c'est vraiment une jeu de balance entre, il y a quelques chansons qui sont un peu plus rapides, il y a des trucs un peu différents, mais tout reste quand même assez mélodique, mélancolique, avec des chouettes voix. Donc ça représente très bien Lost Frequencies. Je pense que c'est un bon snapshot de ce que j'aime en ce moment.
Alors cet album, il est ultra coloré en termes de sonorité et aussi en termes d'émotion. On y retrouve tes mélodies pop accrocheuses, mais aussi ton amour pour les voix. Est-ce que c'était ça l'idée de montrer tout ton savoir-faire, prouver que tu es un producteur éclectique, capable de jouer sur des variations, autre que sur le pur chant des clubs?
Je pense pas vraiment de base, parce que ça arrive avec la version deluxe quand je fais une version alternative de chaque chanson, où là j'essaie de montrer un peu plus ce que je peux produire et ce que je peux faire, et un peu pousser la production à un niveau où les instruments, c'est plus des instrumentales qui représentent la chanson moins que le vocal. Et les chansons qui sont sur l'album, là c'est plus vraiment où j'essaie vraiment faire des chansons qui marchaient bien l'une dans l'autre, et puis qui ensemble faisaient une sorte d'homogénéité, et que si t'écoutes le truc ensemble, que ce soit pas constamment la même chose, mais que ce soit quand même, il y avait quand même un fil rouge. C'était vraiment créer une sorte d'histoire, et c'était sympa de le faire. Et au final j'ai produit plein de chansons, ils sont pas toutes sur l'album, mais j'ai vraiment fait une sélection de toutes celles qui pour moi vont sonoriquement bien ensemble, et c'est pour ça qu'elles sont toutes ensemble sur l'album. Ouais.
Alors on n'oublie pas qu'au-delà d'être DJ, tu es également un producteur, un musicien qui fait du clavier, de la guitare. Quelle a été la place des instruments dans la conception de ton nouvel album? Qu'est-ce qu'ils apportent de plus, ces instruments, à une production purement électronique et purement machine?
Ah oui, non, moi j'aime bien avoir beaucoup de sonorités organiques. Ça change très fort la couleur, je pense, d'une chanson, surtout d'une chanson électro, d'avoir des instruments acoustiques. C'est pour ça que moi j'aime bien, il y a beaucoup de piano, il y a beaucoup de guitare acoustique, guitare électronique aussi dedans. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire, de mélanger l'électronique avec des instruments réels, vraiment enregistrés, avec cette touche humaine.
Les instruments, c'est important donc, tout comme les voix. Toi, t'as toujours aimé jongler avec elles. Au fond, qu'est-ce qu'un chanteur ou une chanteuse apporte à ta musique? Je veux dire, est-ce qu'ils sont là pour renforcer ta production ou ça va au-delà? Est-ce que tu co-construis tes morceaux avec eux?
Non, je pense que vraiment, ouais, une voix, ça peut apporter plein de choses différentes. Il y a certaines chansons qui chantées par quelqu'un d'autre sont vraiment moins bien. Donc c'est vraiment, le chanteur apporte vraiment beaucoup à la chanson. Et parfois, j'ai travaillé avec des chanteurs qui ont chanté une chanson qui n'était pas bien, puis tout confié, ils ont chanté sur une autre chanson. Et là, ça donnait super bien. Donc c'est vraiment, c'est pour moi en tout cas, c'est pas toutes les instrumentales sont bons pour tout le monde. Donc c'est chouette de voir que parfois, quand un chanteur s'approprie un peu la chanson et chante la chanson et sa voix arrive sur la track, et d'un coup c'est une autre atmosphère, une autre dimension. Je trouve ça, alors quand ça match, alors c'est vraiment super cool. Et parfois ils ont vraiment compris la vibe de la chanson, tu vois, qu'ils font des adlibs ou ils font des trucs, ils créent des nouvelles choses qui avaient pas forcément de base, qui vont parfaitement avec l'atmosphère et qui en fait font blinder de sens que j'avais pas vraiment entendu, mais maintenant que c'est dedans, je pourrais plus l'entendre sans. Donc c'est vraiment chouette de pouvoir travailler avec des chanteurs aussi qui, ouais, je travaille avec beaucoup de chanteurs qui sont des bons chanteurs, donc c'est chouette de pouvoir travailler avec des gens qui savent ce qu'ils font et d'avoir leur input aussi.
L'album nous montre une chose, c'est que chaque morceau peut partir dans différentes directions. Il y a au final cet esprit club, ce retour à des rythmes dansants. Ça reste ton ADN, la raison d'être de ta musique, c'est d'être joué prioritairement en club et festival et de garder cet héritage là.
Ouais, je pense que cet album, si tu le joues en club ou en festival, ça va pas être la plus grosse soirée du monde. C'est assez calme, c'est assez posé, mais c'est ça a toujours les sonorités électro, parce que moi j'adore toutes ces sonorités électroniques. Et c'était vraiment un mix entre une musique électronique posée, bien écrite, j'espère bien produite. C'est ma partie. parti ça. Et ouais, c'est pour ça aussi que maintenant je joue beaucoup de clubs, beaucoup de festivals. Et là, je fais, comme j'ai dit au début, je fais une version alternative de l'album où je remixe chaque chanson plus un peu plus punchy, parce que comme ça, alors c'est vraiment un peu plus fait. Et si t'avais écouté l'album de base, tu sais toujours chanter avec la chanson remixée, mais après derrière aussi faire la fête et s'amuser quoi.
Lost Frequencies, mon invité ce soir sur FG, on marque une pause avec Reality, extrait justement de son nouvel album All Stand Together. Lost Frequencies qui est mon invité ce soir sur FG.
17h-20h Happy Hour FG. Ce soir, Antoine Baduel invite
Lost Frequencies.
De retour avec Lost Frequencies, mon invité ce soir sur FG, le DJ producteur bruxellois qui vient de sortir son nouvel album All Stand Together. Alors Félix, je le disais, ton album n'est pas que festif, il est doublé cette fois d'une tendresse, d'une fragilité assumée, comme si tu t'étais davantage laissé aller, plus qu'avant en tous les cas. Est-ce que c'est le cas?
Ouais. Bah, y a certaines chansons qui sont des chansons en fait qui c'est chouette, j'aurais pas pu sortir ça si c'était pas un album. Je pense entre autres il y a l'intro avec sa cable, l'outro qui est plus une chanson qui dure 6 minutes, plus instrumentale, puis il y a une chanson avec Netsky au milieu qui est un peu plus de drum and bass, mais et je trouve ça chouette sur l'album de pouvoir faire des trucs différents mais qui matchent toujours avec moi-même, mais qui en effet sont assez mélancoliques, assez émotionnels. Dans le studio il y a des moments où je mettais le son à fond, je fermais les yeux, je disais j'espère qu'il y a des gens, tu vois, qui se posent, qui mettent le son à fond et qui écoutent la chanson à fond, et toi qui essaies de juste l'écouter comme ça, et j'espère qu'ils vont kiffer comme c'est censé, comme moi j'aime bien l'écouter, et si c'est pas comme ça qu'ils le font, j'espère qu'ils vont l'apprécier aussi. Anyway,
ton image, le nom de l'album, tout ça ramène à un état d'esprit très fédérateur, positif, honnête, généreux, ce qui dans le monde actuel est quand même bienvenu. En tant qu'artiste, comment tu vois cette magie qui fait qu'en un titre tu peux nous enlever de notre quotidien à une actualité triste, voire carrément déprimante? Est-ce que c'est ça que tu as en tête quand tu produis un morceau?
Je le vois surtout en live, tu vois vraiment que la musique rassemble et que il y a certaines chansons, parfois il y a certaines chansons un peu tampons qui sont pas les chansons qui vont amener l'énergie, mais qui font du fait qui se traduisent en fait, c'est juste une chanson et puis c'est celle d'après parce que t'as joué celle d'avant qui va être tellement plus fragile, qui va amener un peu ce côté un peu frisson. Et donc ouais, moi en tout cas en live je vois vraiment que quand la musique, quand il y a ce moment où tout le monde chante, ou bien tout le monde a un peu cette même vibe, ah ça c'est un moment magique, et ça c'est le moment que je préfère. Et il y a souvent comme ça des moments où j'ai des frissons, je me dis ça c'est comme un truc de dingue ce qui se passe maintenant, et ça c'est le pouvoir de la musique. Ouais.
On parlait de ton nouvel album, cela dit on n'y retrouve pas ton tout dernier single Head Down. Nous dire sur ce titre et pourquoi n'est-il pas sur l'album? Est-ce que tu as déjà tourné la page? Est-ce que tu as ouvert déjà un nouveau chapitre?
Non, en fait il était déjà prêt, la chanson était déjà prête et elle était sur l'album, et on a un peu discuté avec le label, et c'est plus en fait le problème maintenant avec les DSP, Spotify et Apple Music, etc. C'est l'album il sort, et même moi j'en suis conscient, quand j'écoute un nouvel album, j'écoute l'album une fois et puis après je prends 3, 4, 5 de mes chansons préférées, les mets dans ma playlist et puis je veux plus réécouter l'album. Et ce qui en fait est dommage, et c'est pour ça qu'en fait j'ai pas mis Head Down dessus, parce que je voulais la garder, et que les gens découvrent l'album, découvrent toutes les chansons qui sont peut-être moins fortes quelque part, un peu moins radio, un peu moins accrocheuses, mais qui sont pour moi des chansons super chouettes à découvrir et à réécouter pour apprécier. Et Head Down, c'est pour moi, c'est vraiment quelque chose de plus powerful aussi, avec De Bastille qui est vraiment un top chanteur dessus, qu'on a gardé en pièce un peu secrète pour la sortir par après encore plus tard, et puis aussi pour que les gens puissent redécouvrir l'album, parce que sur Spotify etc. en fait elle va être inclue dans l'album, pas en vinyle, ce sera un peu voilà à découvrir sur les en digital. Mais du coup j'espère du coup via ce biais là que les gens peut-être réécoutent l'album encore une fois, et en fait découvrent des chansons qu'ils avaient peut-être à première écoute pas sauvegardées. Donc c'est plus une tactique plutôt que autre chose, et c'était avec ça qu'on a fait ça avec le label. On a décidé de faire ça parce que en espérant voilà que les gens découvrent la musique, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de output aujourd'hui qu'un album tu le sors puis c'est fini, et c'est dur d'en parler. Et je pense qu'en gardant une chanson en secret, puis la ressortir, et que ce soit un chouette nom, que ce soit un peu une sonorité différente aussi, on espère que ça, que les gens redécouvrent l'album encore une fois.
Alors on a désormais l'habitude de te voir hyper souriant en proximité avec ton public, comme si à chaque live, chaque concert, tu vivais le même bonheur qu'au premier jour. T'as toujours eu cette fraîcheur? Comment t'expliques ça? Est-ce que c'est un plaisir ultime pour toi de performer, d'avoir cette chance-là, d'être face à ton public?
Je trouve ça toujours assez dingue de me dire que déjà j'ai la chance de pouvoir tourner dans plein d'endroits différents. Donc par exemple aujourd'hui je suis ici à Paris, demain je vais en Autriche, puis après je rentre en Belgique où j'ai aussi un show. Et en fait c'est, je trouve ça fantastique de pouvoir découvrir plein de cultures différentes, plein d'endroits différents et faire des shows très différents à d'endroits différents. Parce que moi mon set est plus ou moins le même, je joue toujours mes chansons et je joue ma musique. Les localisations où je suis sont tellement différentes et sont perçues d'une, ma musique est perçue d'une façon tellement différente que je trouve ça dingue à chaque fois de dire ouais, on est ici, les gens connaissent ma musique et tout le monde s'amuse et à un bon moment, c'est une chouette vibe. Et je trouve ça juste incroyable que qu'après maintenant ça fait presque 10 ans que je fais ça, que ça se passe encore. Et ouais, je suis content.
All Stand Together vient également clore une année 2023 plutôt excellente pour toi, notamment le milliard de streams pour Where Are You Now. D'ailleurs, toutes mes félicitations. Comment tu l'as vécu cette année 2023 et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024?
On veut souhaiter une bonne santé et ouais, que ça continue, quoi. Tout se passe bien et je pense que j'ai la chance de pouvoir faire Lost Frequencies, la musique de base que je produis, c'est de la musique que j'aime bien. Et à chaque fois, les versions alternatives que je fais, ce qui est cool, c'est que je. La musique électronique, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de trends qui arrivent et qui s'en vont, et de pouvoir faire des versions alternatives à chaque fois, en fait, je peux un peu m'appuyer sur ces trends et faire des trucs qui je pense sont un peu actuels, sans forcément rendre la musique Lost Frequencies de base très différente, mais par exemple les versions de luxe, je peux vraiment faire un truc d'un coup complètement différent, et voilà, c'est la version de luxe. C'est marrant, c'est chouette. Et puis dans le set, ça marche parce que là, de base, il y a la voix de l'original. Donc c'est chouette. J'ai trouvé un format, je pense, maintenant qui fait en sorte que je puisse faire tellement de choses différentes. Donc ouais, je m'amuse à produire la musique et je m'amuse à faire les shows et je m'amuse à faire ce que je fais.
Mai 2013. Antoine Baduel reçoit Miguel Campbell.
Et ce soir, mon invité, c'est le DJ producteur britannique Miguel Campbell. Allez, un petit lancement à la Wikipédia. C'est à Leeds, la ville du comté du Yorkshire, qu'a grandi Miguel Campbell, nominé au dernier Ibiza DJ Awards. Il est ce qu'on appelle un newcomer, une potentielle star de l'électro, mais surtout sa musique électro-funk et disco est classieuse. Irrésistible, à l'image de son album Back in the Flight School, Miguel est l'un des DJ qui sera présent au festival Marvelous Island. Et ce soir, c'est mon invité de la Happy Hour, Miguel. Good evening, how are you doing?
Hi, I'm fine, thank you. How are you?
I'm very good, thank you. Alors Miguel, t'es invité à cette première édition du festival Marvelous Island aux côtés d'artistes prestigieux de la scène deep et minimal. 100 DJs sont invités. J'imagine que pour un DJ comme toi qui aime la France, en plus, ça doit être un très très bel événement.
Yes, of course. I mean,
oui, bien sûr. Je veux dire, c'est comme un rêve qui devient réalité pour moi. À chaque fois que je viens à Paris ou dans d'autres villes de France, c'est génial parce que c'est un pays qui m'influence beaucoup et ça influence la musique que je fais. Donc, avoir le retour du public et la possibilité de me produire dans un tel événement, c'est vraiment génial.
Alors, ta marque de fabrique qu'on a pu trouver dans ton dernier album, Back in the Flight School, est une électro très funky, parfois disco. C'est ce son-là que tu vas distiller à Marvelous Island ou tu changes d'univers quand tu joues dans les festivals?
C'est une bonne question. Et je te répondrai que j'essaye juste de faire mon truc à moi, de jouer mon propre son qui est, c'est vrai, un peu différent de celui des autres DJ. Donc oui, je cultive cette différence. Parfois, je mets des influences hip-hop dans mes sets et d'autres fois, c'est des sons soulful et très vocaux. Voilà, j'essaie de créer un petit voyage musical et je vois ce que ça donne. Je planifie jamais à l'avance pour pouvoir mieux sentir les réactions du public.
Et à l'image de ton album, tu conçois ton set comme un voyage musical quelque part.
Ouais, c'est ça. Et surtout, un set, c'est pour moi l'occasion, non pas seulement de jouer mes propres productions, mais aussi les titres de mes potes, de mes collègues. Et je crois que c'est un bon moyen de montrer qui je suis, ce que je fais. Bon, sans être trop centré sur mes seuls titres.
Alors tiens, puisque je parlais de ton album Back in Flight School, ça m'amène à tes productions. Est-ce que tu vas présenter quelques nouveautés pendant le festival Marvelous Island?
Ouais, t'as raison. Je vais présenter quelques titres. En fait, je suis en train de bosser actuellement sur mon nouvel album. Et c'est vrai que j'ai hâte de pouvoir jouer quelques-uns de ces titres pendant le festival. Et puis sinon, j'ai des morceaux signés sur mon album Outcross Records.
Miguel Campbell, qui est notre invité ce soir de la Happy Hour, il sera d'ailleurs au festival Marvelous Island. Alors Miguel, tu vas te produire à ce festival Marvelous Island à Paris. Et ce sera sur la scène
du label anglais Hot Creations, très très réputé pour ses productions de Deep House que tu seras. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce label? Comment est-ce que ce label travaille avec les artistes comme toi?
Ah, tu sais, en fait, c'est comme une grande famille. On partage les mêmes valeurs. Et c'est génial, parce que au moment où ma musique commence à être plus écoutée, c'est un label qui me donne l'opportunité de la partager avec le plus de monde possible. Donc, je me sens vraiment chanceux. Et je suis sûr que d'autres DJ du label partagent cet avis. Et c'est cool de voir cette plateforme qui est Hot Creations devenir de plus en plus populaire. Ah, je suis vraiment fier d'en faire partie.
Alors, tu tournes beaucoup autour du monde, hein, Miguel, notamment aux États-Unis. Est-ce que toi aussi, tu constates ce nouvel engouement du public pour les sonorités Deep House?
Ouais, bien sûr. Je fais beaucoup de clubs dans le monde et c'est vrai qu'il y a un public de plus en plus large et divers qui tombe sous le charme de notre musique. Pendant longtemps, il y avait le rap, le hip-hop qui dominait la dance music, mais les choses changent. Il y a beaucoup d'artistes hip-hop qui viennent vers la house music, celle que je joue. Et plus on est de fous, plus on rit.
Alors, je me souviens, Miguel, que tu avais été nominé lors des DJ Awards d'Ibiza. À propos d'Ibiza, justement, est-ce que tu vas y jouer cet été? Est-ce que tu as déjà ta résidence de prévue?
Ouais, évidemment que j'y jouerai cet été. Mais je n'aurai pas de résidence, sauf celle du label Hot Creations. Donc, je me produirai notamment au DC 10 pour les soirées Paradise. J'ai aussi des choses de prévues au Sean Keys avec mon label Outcross. Et puis, il y aura des beach parties, des boat parties. Donc, ça va être un très très bel été et j'ai vraiment hâte d'y être.
Miguel Campbell, nouveau talent de la scène électro, vous le retrouvez sur la scène du festival Marvelous Island, un événement avec FG aux côtés de Vankelmuth, Guy Gerber et Loco Dice. En tout cas, ça va se dérouler tout au long de cette semaine sur l'île de la Porte Jaune à Paris. Plus d'infos sur marvelousisland.fr. Thank you, Miguel.
No, thank you. I look forward to seeing you soon.
Novembre 2023. Antoine Baduel reçoit Hugo Clément.
Et voilà le retour annoncé de l'Ocean Fest, deuxième édition. Le Raout festif et engagé pour la planète, fondé par le producteur français qu'on aime beaucoup sur FG, Waracles, accompagné du journaliste Hugo Clément. Un festival qui va quitter les rivages IT de Biarritz pour atterrir à Nantes le samedi 6 janvier prochain. Ce sera un des premiers festivals de l'année, toujours au profit de la préservation des océans. Signe que le festival se porte très bien, le line-up de cette seconde édition. Et on en parle tout de suite avec Hugo Clément. C'est mon invité ce soir sur FG. Bonsoir Hugo, comment tu vas?
Bonsoir. Ça va et toi?
Ben ça va très bien, c'est la deuxième édition pour l'Ocean Fest que tu as créé avec Waracles, événement festif engagé qui avait démarré à Biarritz en mars dernier. Alors comment s'est passé le premier volet d'ailleurs? Est-ce que tu avais été surpris par l'engouement du public et heureux d'avoir pu le sensibiliser sur le quant au sort des océans?
Ouais, franchement on a été très surpris de vendre toutes les places en quelques jours. Ça a vraiment été un gros engouement. Bon, faut dire qu'il y avait une belle affiche avec des super artistes qui étaient là bénévolement pour participer à cette soirée, et on a été très heureux à la fois pour les associations, pour les festivaliers qui ont passé un bon moment et pour les artistes qui ont trouvé du sens dans cette action.
Alors c'est bien là l'enjeu d'Ocean Fest, faire venir un public autour de grands DJ et les sensibiliser aux questions climatiques, là en l'occurrence les océans, notamment avec la fameuse association Sea Shepherd. Et on a le sentiment que le combat séduit aussi les artistes parce que le line-up de la seconde édition est fou. Alors est-ce que tu peux nous le détailler d'ailleurs?
Oui, bien sûr. Alors on a Vladimir Cauchemar, qui est un artiste qui cartonne en ce moment sur la scène électro. On a Feder, un autre nom très important. On a le duo Offenbach. On a Ibrahim Malouf qui va nous faire un set inédit avec une résonance électronique. Et puis on a Petit Biscuit aussi qu'on adore et qui sera là à Nantes. Et il y a d'autres noms qu'on peut pas annoncer pour l'instant, mais qui seront annoncés très bientôt. Donc ça va vraiment être une très 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 belle soirée.
Alors tu n'as pas eu de difficulté, j'imagine, à les convaincre et à vous suivre sur la thématique des océans, parce que on dit souvent que la scène électro n'est pas si sensibilisée qu'on pourrait le penser sur le dossier climatique ou celui de la biodiversité. Est-ce que tu as l'impression que les choses ont changé?
En tout cas, on n'a pas eu de mal du tout à convaincre ces artistes, et je les en remercie, qui ont accepté quand même de venir dans un emploi du temps qui est le leur, qui est très chargé, et de venir bénévolement. Ils viennent gratuitement pour participer à cette soirée, donc c'est vraiment un geste fort de leur part. Et ils ont dit oui tout de suite, pour la plupart, ils ont été tout de suite très convaincus. Donc on est super content et je pense que oui, les choses bougent petit à petit. Alors ça ne veut pas dire que tout va changer du jour au lendemain. Il y a toujours des pratiques qui peuvent poser un certain nombre de soucis, mais en tout cas, je pense qu'on est au début d'une prise de conscience, y compris du côté de l'artiste.
Allez, Hugo, on marque une petite pause. On est de retour avec toi dans un instant. On s'écoute Delirium tout de suite. How Do I Sleep sur FG.
Yeah. Happy Hour FG avec Antoine Baduel. Star, Mix Live, cadeau. Ce soir, Antoine Baduel invite Hugo Clément.
De retour avec Hugo Clément, mon invité ce soir sur FG pour nous parler du festival Ocean Fest qui se déroulera le 6 janvier prochain à Nantes. Premier festival de l'année. Un festival engagé en faveur de la protection des océans et contre le dérèglement climatique. On aurait peut-être dû commencer par cette question concernant l'Ocean Fest. Pourquoi les océans? Pourquoi c'est cette problématique de préservation de la faune et de la flore marine qui vous a marqué, toi et Oracles? Qu'est-ce qui, toi, t'a révolté ou sensibilisé?
Bah moi, j'habite à Biarritz, donc je suis très sensible à l'océan et j'ai toujours vécu passer beaucoup de temps proche de la mer et de l'océan. Et c'est un écosystème absolument indispensable à notre survie, tout simplement. Hein. La majorité de l'oxygène qu'on respire est produit par les océans. Donc sans les océans, on meurt. On peut pas être en bonne santé si les océans sont malades. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les océans sont dans une situation assez dramatique, avec évidemment la pollution plastique, la pollution chimique, la surpêche, la destruction des écosystèmes, le réchauffement de la température de l'eau. Donc il y a vraiment une urgence à donner les moyens aux associations qui se battent pour les océans d'agir. Et c'est tout le sens d'Ocean Fest.
Et l'Ocean Fest restera aussi sur ces thèmes, ou alors vous envisagez, pourquoi pas, d'élargir le festival à d'autres questions climatiques ou liées à la biodiversité?
Pour l'instant, comme son nom l'indique, c'est Ocean Fest, donc c'est sur l'océan, c'est pour aider des associations qui ont un lien, au moins un petit lien avec l'océan, on va dire. Mais on envisage, pourquoi pas, d'élargir dans un second temps. C'est un seul et même combat, évidemment, hein. Les océans, ça va avec la défense des forêts, ça va avec la défense des rivières, tout finit à l'océan, hein. Tout ce qu'on jette à terre finit à l'océan, donc tous les combats sont liés. Et en tout cas, on va pérenniser ce festival, puisque après Nantes, le 6 janvier 2024, on revient à Biarritz en avril 2024, le dernier week-end d'avril 2024. Et là aussi, on aura une super programmation qu'on a hâte de pouvoir annoncer.
Voilà, vous l'avez compris, un line-up de dingue, Feder, Vladimir Cauchemar, Offenbach, Petit Biscuit, mais également l'excellent Ibrahim Malouf à l'affiche du festival Ocean Fest, qui proposera également un certain nombre de conférences que Hugo Clément va animer. Tout ça se déroule le samedi 6 janvier au Zénith de Nantes. C'est la deuxième édition. Un conseil, prenez vos billets dès maintenant et n'oubliez pas l'after prévu chez nos amis du Warehouse, qui est d'ailleurs non seulement le meilleur club de Nantes, mais également un des meilleurs clubs en France. Merci beaucoup Hugo, à bientôt sur FG.
Avec plaisir, et bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais Oracle sera présent avec moi à Nantes. Donc venez les amis, ça va être cool.
Et Oracle sera présent à ses côtés, donc rien que pour ça, on y va également. Merci Hugo.
À très bientôt, merci à vous.
Bonne soirée, ciao.
Septembre 2016, Antoine Baduel reçoit Cassius.
10 ans que Cassius n'avait pas sorti d'album, 10 ans qu'on ne vivait pas, du coup, on survivait. Bon,
c'est vrai, nous aussi d'ailleurs, c'est gentil.
On force un peu le trait, mais c'est vrai que la sortie d'un nouvel album, c'est clairement un événement pour le duo et qu'on adore, évidemment, d'abord parce que c'est des amis de longue date, comme on dit, mais
très
également
longue date, ouais, c'est vrai.
Des musiciens qu'on adore sur FG. Ibifornia, évidemment, vous l'avez compris, c'est la contraction d'Ibiza et de California, un lieu qui, quelque part, est totalement onirique, une île luxuriante, riche de collaborations ultra festives, avec pour bande-son de la pop, de l'électro, de la funk, de la disco, de la house. Philippe Zahar, Hubert Bombas sont mes invités ce soir pour cette émission spéciale. Bonsoir les garçons.
Bonsoir Antoine.
Bonsoir
FG.
Antoine.
Ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu dans les bureaux.
Such a long time. Ah bah ça, c'est le problème d'Elodie, elle fait barrage en fait.
Tout a été repeint. Ah, c'est Elodie.
C'est une, elle fait barrage. Je voulais dire à
longtemps. Non, je crois que c'est parce qu'Hubert demande trop cher. Non, c'est pas ça.
Ça, c'est le deuxième problème.
Hubert veut toujours être payé en promo. C'est très bizarre.
Non, caché.
Mais comment ça se fait? Il n'y a que le journal du dimanche qui a accepté de lui donner 20 briques.
Les garçons, on en parlait à l'instant. Ibifornia, c'est une histoire, c'est un voyage. Et ça nous aide à le comprendre quand on écoute cet album, parce qu'on passe d'un chemin à l'autre. Tantôt disco avec The Sound of Love, tantôt carrément house avec Ibifornia. Les collaborations influencent beaucoup. Ça, on en parlera tout à l'heure, chacun des morceaux. Mais est-ce que c'était votre idée de départ, comme ça, de nous livrer une palette de couleurs avec les différents jardins secrets d'Ibifornia?
Pas au tout départ, pour être honnête, non. Mais ça s'est vite profilé quand Philippe est arrivé avec le titre.
Ah oui. D'un autre côté, je crois que si on réfléchit bien, c'est que c'est ce qu'on est en fait avec Hubert. Donc en fait, c'était que ce soit l'idée ou
oui,
pas le départ,
pas
finalement, c'est ce qu'on est.
C'est
chaque album,
c'est vrai.
quand je les réécoute, l'autre fois j'ai eu, parce qu'on a sorti le back catalogue, du coup je me suis refait au rêve. C'est un bordel infini de d'ailleurs on est en train d'écouter le track au rêve, et c'est un bordel infini de tous nos influences qui cohabitent. Alors je me souviens, dans les années 90, on nous disait tout le temps, ah mais comment on réussit à faire ça, puis en fait là on vient quand même tous de vivre 20 ans où tout le monde met toutes ses influences, et c'est plus du tout bizarre d'avoir un disque avec de la house, de la techno, du machin, etc. Ouais. Mais c'est vrai que c'est notre façon d'être. Il est hyper, et c'est la seule différence, c'est que celui-là, on a réussi, entre guillemets, ouais, d'approcher à le truc qu'on voulait vraiment faire.
C'est devenu un peu l'histoire de Bifornia. C'est-à-dire quand c'est arrivé, malgré tout, on s'est dit, tiens, donnons une vie et un sens à l'heure de musique que ça va être.
Alors, il y a une chose aussi qu'il faut préciser, évidemment, c'est les collaborations. Déjà, avec Fistin Again, pas mal de monde qui avait collaboré à vos côtés. Mais là, c'est un vrai travail d'équipe. Une liste de collaborations de prestige, Pharrell Williams, Mike D des Beastie Boys, Ryan Tedder de One Republic, pour ne citer que. Et ça ressemble à une...
Cat Power, obligé.
Exactement. Ça ressemble à une cour de récréation où des potes prennent leurs pieds. Est-ce que je me trompe?
C'est tout à fait raison. C'est exactement ça.
Ma mère m'a dit ça quand elle est venue au studio.
Ouais, c'est fou.
C'est marrant. C'est on dirait deux gamins au square en train de jouer dans le bac à sable avec les autres potes qui arrivent en disant, moi aussi je veux jouer.
Il y a quand même un truc. Parce que la balance, elle se fait chez vous, justement, sur ce côté, une ambiance super détendue et en même temps des vrais perfectionnistes au travail. Comment vous balancez comme ça ce... Vous êtes total destroy, total freestyle, vous faites des concessions quand vous avez justement toutes ces collaborations qui viennent, et c'est entre vous, vous mettez la pression, ça se passe comment en studio?
Non, je crois que c'est hyper naturel. On a un truc, on est des mecs de studio. Moi, Hubert, quand je l'ai connu, c'est le fils de Demi Moore Francard, il est né dans un studio. D'ailleurs, j'ai racheté le studio que ton père avait en 83.
C'est ça qui est drôle.
La fois où j'ai fini les travaux, Hubert arrive, il me fait, ah, c'est fou, j'avais 5 ans, je marchais là, etc. Et moi, je suis obsédé par ça depuis le jour où j'ai quitté Aix-les-Bains à 17 ans et demi et que je suis arrivé à Paris. Et... Donc, le studio, c'est un endroit qui est comme un tribunal qui devrait être fait pour t'impressionner. Mais nous, il nous impressionne plus, c'est notre endroit. Donc, on réussit à garder ce truc.
C'est plutôt votre refuge. C'est votre cocon.
C'est un endroit où on se sent heureux et on sait qu'il y a des choses magiques qui se passent. Donc,
on se sent sûr.
On arrive à y vivre des moments assez cool. Et ça, c'est vraiment important de libérer les autres avec, parce que Cat Power, Pharrell, Mike, tous ces gens-là, ils ont passé leur vie en studio. Donc, après, il y a des divers moments où tu peux te retrouver avec un ingénieur du son ou un personnel social qui te met de la pression. Nous, on met une sorte de truc, on veut rigoler, on ouvre des bouteilles de Bourgogne, il faut qu'on se marre, il faut que ce soit le bordel, et un peu improvisé. Mike n'était pas censé le rapper 3 minutes avant. On lui a fait rentrer, on lui a dit, tu veux pas rapper là-dessus? Il écoute, ah, j'aime bien, ah, j'écris. Ouais. Et voilà.
Et alors, justement, vous parlez de studio, mais où? À Paris, aux États-Unis, à Ibiza?
Beaucoup au studio, le studio de la maison, le studio Montmartre, qui est Motorbass Studio, qui est mon studio, ouais. Et dans lequel on a passé pratiquement 2 ans là. Puis après, on a enregistré aussi à Oscilloscope, c'est le studio des Beastie Boys à New York, et à Shangri-La, qui est le studio de Rick Rubin à Los Angeles.
Ça se passe comment aujourd'hui une production? Parce que, évidemment, on a été bercé par ces productions qui avaient été produites au départ en très peu de temps. D'ailleurs, certaines de vos premières productions étaient un peu dans ce cas de figure. Aujourd'hui.
La première.
Ouais, la première seulement. Après, c'était très long.
La première n'a mis qu'un an, et ensuite, c'était beaucoup plus.
Après, évidemment, on a des collabs. Vous êtes réputé comme des perfectionnistes, je le disais. Alors, vous êtes même méticuleux, je pense. C'est surtout ça, le mot.
Ouais, c'est tout à fait possible.
Alors, concrètement, en studio, c'est
important
quoi
quand même. C'est
vous
important.
Allez passer des heures sur une voix, sur un riff de guitare?
Non, ça ne fait plus, ça.
Non, en fait, on va très vite au début. Et malheureusement, techniquement, enfin vraiment, si tu veux que je rentre dans le détail, c'est qu'on fait très vite un truc et en fait on veut toujours le...
Je peux rentrer. Pas dans moi.
Il est où d'ailleurs? Reviens là s'il te plaît, détail. Et on est très très rapide pendant un très court laps de temps.
Non, voilà. Non, c'est comme ça qu'il rentre dans le détail.
C'est comme ça qu'il rentre dans le détail. Et ensuite,
c'est toi,
le détail fait
Philippe,
la gueule.
Philippe,
j'ai rien senti. Non,
mais
surtout toi,
moi personnellement.
Et dites-moi, les garçons, toutes ces collaborations, c'est quoi? C'est le fruit d'une longue réflexion? C'est aussi d'une longue amitié avec les artistes? Ou alors, c'est des rencontres?
C'est Hubert. Hubert qui a couché. Hubert couche avec tout le monde et du coup, ils veulent tous bosser avec nous.
Enfin, ça fait 20 ans qu'on le sait quand même.
Je sais pas quoi vraiment
dire. J'ai lâché l'info, j'en avais marre.
C'était notre secret.
Ça fait 15 ans que je garde ce truc en moi, les gars.
Le secret a été ventré.
On pouvait plus carrément. Ça y est, c'est fait. Moi, bon, je suis un ami avec Cat Power, mais Hubert a dû coucher avec tous les autres.
C'était pas facile, mais bon, ça fait un beau disque.
Ah bah.
Il a le sens du. C'est un bon français, il a le sens du sacrifice.
Alors, évidemment, toutes ces voix, quand on les écoute et quand on écoute Ibifornia, c'est donc une île paradisiaque, très ensoleillée. Je me permets plus de dire l'autre mot, j'avais écrit hier, je mets là sur le retire.
Ouais, c'est vrai. Non, moi je suis encore, mais bien, il est plus.
Absolument. Et donc,
mais je sais pas de quoi vous parlez.
Où l'on danse les pieds dans l'eau,
non,
c'est vrai
ouais,
que.
Ouais, ouais.
C'est vrai qu'en tous les cas, on se projette. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Est-ce que vous avez vous-même enregistré, produit beaucoup de choses à Ibiza, parce que c'est aussi un lieu où vous vous éclatez l'été? Est-ce que ça a été un lieu aussi d'enregistrement?
Il y a pas mal de bases qui viennent de là. Et il y a des petits
aventures musicales.
On a fait 15 Again dans une maison à Ibiza en octobre. C'était incroyable. On pouvait mettre hyper fort.
Mais quand même, Ibiza, c'est surtout pour nous, c'est aussi un lieu de ressources, où on se ressource.
Ouais, bien sûr.
C'est d'énergie.
Quand vous êtes à Ibiza, c'est la part justement, vous vous ressourcez, vous vous posez, même à la rigueur, vous continuez à réfléchir à des choses, versus vous vous produisez, vous allez au-devant du public, voire vous testez certains des morceaux de l'album. C'est quoi? Vous êtes toujours un peu à mi-chemin entre les deux?
Non, on est beaucoup plus en ressources. Ouais. On joue beaucoup moins à Ibiza. On a joué deux fois là cette année pour Martin, justement. Martin Sebek, trop cool, c'était hyper sympa. Et c'est juste que. Je sais pas comment l'expliquer, mais quand on est arrivé à Ibiza, on jouait au Space, il y avait pas de toit, moi je jouais pieds nus, Hubert il était là, on arrivait en retard, on se rendait même pas compte de ce qu'on vivait, les avions passaient devant et les mecs déchiraient leurs billets, c'était fou, il y avait des filles partout. Et puis après, tout d'un coup, il y a eu cette espèce de truc où c'est devenu comme Las Vegas, Ibiza, il faut le dire, c'est rempli de camions, des camions qui livrent des mecs qui déboulent en pantacourt, en boîte, on s'en fout, mais je veux dire, on attend de retrouver d'ailleurs un truc qui est en train de revenir. J'ai vu par exemple Glitterbox, qui est une soirée de Space cette année, où les gens s'en remettent à danser, où il y a un vrai mélange, etc. Je crois que les gens ont besoin de ça. Les trucs qui ont explosé cette année, c'est ça, Cova Santa, des endroits où il y a un peu l'esprit d'Ibiza qui revient, parce que là il y a un petit peu trop de cynisme. Donc nous, de toute façon, on va là-bas parce qu'on aime Lille, les clubs on n'y va pas souvent. Moi je sors au DC10 une fois de temps en temps, puis
mais il y a ce truc magique du club quand il va quand même. Ce qui nous arrive, c'est que tu sors à 5 du mat quand le soleil se lève, ou à 6 ou à 8, t'es sur Lille, t'es pas dans Paris ou à Londres.